podcast de Radio Vatican.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, il y a donc presque un an, des officiers de l'armée turque tentent de s'emparer du pouvoir, profitant de l'absence du président Recep Tayyip Erdogan. Après une nuit confuse d'affrontements entre putschistes, certains corps de l'armée et les militants d'Erdogan appelés à la rescousse, le président, entre-temps rentré en catastrophe à Ankara, annonce avoir repris le contrôle de la situation et promet de pourchasser, sans relâche, les instigateurs du putsch et leur soutien. Commence alors une série de purges massives au sein de l'administration, de l'armée, de la justice, du monde universitaire et des médias. Des dizaines de milliers de personnes sont révoquées ou arrêtées dans une atmosphère de suspicion généralisée et sous le regard inquiet de plusieurs pays occidentaux. Balayant d'un revers de main les accusations de dérives autoritaires, le président Erdogan, mis en confiance par l'échec du coup d'État, propose en avril une réforme constitutionnelle. Adoptée par référendum, elle renforce largement les pouvoirs du chef de l'État. Cette délicate situation n'est pas sans conséquences. Un certain nombre de citoyens turcs ont ainsi décidé de quitter le pays et son climat de tension. Quant aux touristes et aux pèlerins, ils se font rares, ainsi que nous le témoigne le frère Claudio Monge. Ce dominicain italien vit à Istanbul depuis une douzaine d'années. Il y dirige le centre de documentation et de dialogue interculturel et religieux.
Mais d'abord, il faut dire que d'habitude, il y a un double regard. C'est très étonnant pour nous, parfois, avoir la possibilité d'accéder à la presse étrangère et en même temps vivre ce qu'on vit au quotidien en Turquie pour remarquer que parfois, il y a vraiment deux regards. C'est clair que depuis un certain temps, on vit nous aussi une tension très 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 forte, une polarisation au cœur de la société. On constate quand même que la vie continue, que les gens ont une capacité extraordinaire malgré tout de rebondir, de vivre au quotidien. C'est sûr qu'il y a des signes concrets du fait qu'il y a aussi de notre côté un détériorement de la situation. La chose qui me préoccupe le plus actuellement, c'est voir aussi tant de gens qui quittent le pays, tant de Turcs qui quittent le pays, parfois des gens qui, à mon sens, ont une contribution essentielle pour le futur de ce pays, qui a été toujours un pays caractérisé par une dialectique, une richesse aussi culturelle extraordinaire. Et donc, c'est le grand souci. Parfois aussi, je croise des amis ou par téléphone ou par message, je remarque qu'ils ne reviennent pas en Turquie depuis un certain temps. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es où? Etc. Et souvent, je me retrouve à dire, mais on a besoin de vous. Vous ne pouvez pas quitter le pays. En même temps, je comprends très bien que, par exemple, quand on a des enfants, etc., on pense au futur de façon un petit peu, comment dire, préoccupée. Et on pense de tourner de page. Et ça me préoccupe beaucoup. Parce que, voilà, l'impression que j'ai, c'est que dans quelques mois, il y a eu un gaspillage extraordinaire de ressources, de richesses. Et je pense qu'on le ressentira très, très fort. Et récupérer tout ça, ça demandera un temps faramineux. Et donc, ça, c'est mauvais. C'est sans doute très mauvais.
Alors, vous parlez du départ de certains Turcs. Et puis, on a évoqué aussi en début de cette interview, avant même cette interview, les touristes qui n'arrivent plus, notamment les touristes et les pèlerins qui n'arrivent plus en Turquie, qui sont effrayés aussi de la situation. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, qui vous préoccupe?
Ça, c'est une donne énorme. Nous, on le ressent beaucoup, c'est évident, parce que parmi les touristes, il ne faut pas l'oublier, la Turquie, c'est un pays extraordinaire, très beau, très riche en histoire, etc. Et c'est un berceau du christianisme. Et jusqu'à présent, si on pense par exemple à la fameuse année paulinienne d'il y a quelques années, la Turquie même avait découvert l'extraordinaire ressource, même économique et touristique, de cette histoire très riche. Et là, évidemment, le climat de tension, les attentats répétés, etc., ont éloigné de façon très importante les touristes. Et nous, on le ressent aussi au niveau des communautés, parce qu'une bonne partie de nos communautés, catholiques latines surtout, sont composées très souvent par des gens de passage, des touristes, etc. Et aussi, une bonne partie de nos activités est centrée sur l'accueil de ces groupes, de ces pèlerinages. On considère que c'est très important. Nous, qu'on vit sur place, qu'on partage la vie des gens de ce pays, essayer de faire le lien entre ce que les gens voient et donner des clés de lecture aussi pour comprendre la richesse de ce pays, non pas seulement dans son passé, mais même dans son présent. Là, évidemment, on manque, entre guillemets, de clients. C'est flagrant. Et donc, du coup, même, c'est même visuel, parce que nos assemblées, le dimanche, ont beaucoup diminué. En nombre, on est vraiment un petit reste des gens qui sont quand même là parce que, en raison de travail ou parce qu'ils vivent là. Et donc, c'est vrai, on se regarde et on se dit, bon, ça serait vraiment très beau de pouvoir retrouver ce souffle, etc. Sans compter que, évidemment, la question du tourisme est catastrophique au niveau économique. On passe pas jour où, en traversant les grandes routes commerçantes de la ville d'Istanbul, on voit des magasins qui ont fermé, d'autres qui ont changé de propriétaire, mais c'est pratiquement chaque jour. Parce que le niveau des affaires ne tient pas, et donc les loyers sont très hauts, et même dans les zones hyper touristiques, etc., on voit des gens qui lâchent parce qu'ils ne peuvent plus continuer. Et c'est une véritable tragédie pour des centaines de familles, ça c'est évident.
Parlons à présent des minorités de Turquie, je parle bien sûr des chrétiens, mais pas que. Est-ce que ces minorités ont pâti plus que les autres, d'une certaine manière, de la situation qui prévaut depuis le coup d'État de l'année dernière?
Je ne pense pas que le climat de tension actuel, c'est un climat tout d'abord de conflit interreligieux. C'est une tension tout d'abord interne au pays, on le sait très bien. Et donc, je pense que si les minoritaires vivent de façon particulière cette tension, la vivent comme n'importe quel citoyen qui vit dans le pays, mais pas tellement en tant que visé particulièrement, comme étant des chrétiens, etc. Je ne pense pas que c'est une bonne lecture. Évidemment, dans un moment de nationalisme qui pousse énormément, éventuellement, le problème, plus qu'être chrétien, est être des étrangers. Et donc, éventuellement, appartenant à des pays qu'actuellement on considère particulièrement négatifs vis-à-vis de la Turquie, si on pense en général et aux grands pays de l'Union européenne, etc. Donc, le grand péché, c'est éventuellement appartenir à ces pays. Donc, c'est une lecture plutôt politique, non pas religieuse. Et donc, l'étrangeté qui devient, dans un nationalisme montant, plus qu'une richesse, une menace. Et donc, on est mis un petit peu dans le même sac. On vit des tensions de ce moment. C'est dur que d'être des étrangers. Par exemple, au niveau administratif, etc., chaque démarche devient un calvaire, de plus en plus long, difficile, etc. Mais c'est justement cette difficulté à considérer l'altérité, même au niveau de la nationalité, comme quelque chose qui peut être une source d'enrichissement et pas une menace. En plus, les lectures religieuses sont toujours assez dangereuses parce qu'on fait des équations un petit peu fautives quand on pense, par exemple, qu'on considère que ceux qui viennent du nord de la Méditerranée, de l'Europe, sont des chrétiens, forcément. Ou même pire, qu'on dise une certaine rhétorique, par exemple, de Daesh, sont des croisés. Non ? Et donc, on utilise des catégories qui, aujourd'hui, n'ont plus aucun sens. Donc, le problème, c'est vraiment la gestion du rapport à l'altérité, au sens général. Et donc, ça nous rend notre vie difficile et en même temps rend notre présence, à mon sens, pertinente en ce moment. Parce que notre intérêt, c'est justement jouer la rencontre à tout prix. On a besoin, on ne peut pas faire autrement. On est là et faire comprendre qu'on est là depuis des siècles même. On est solidaire avec le peuple. On veut être là et construire un futur, non pas dans le conflit, mais dans une collaboration nécessaire et possible, à mon sens.
Des propos recueillis par Manuela Affigy.